Chers frères et sœurs, deux lectures bibliques pour accompagner notre méditation ce matin. Tout d'abord, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, un chapitre où l'auteur de l'Épître aux Hébreux passe en revue quelques hauts personnages de la Bible, particulièrement significatifs pour la foi qu'ils ont manifestée, des Abel, des Abraham, des Isaac, des Jacob. Et voici ce que cette lettre exprime à partir du verset 13 de ce chapitre 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ce qu'ils désirent pour maintenant, c'est une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et dans le Premier Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, cette vision du prophète quasi inaugurale, au chapitre 2, les versets 2 à 5, il arrivera dans les jours d'après que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur la tête des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre de ce grand nombre de peuples, et de leurs glaives, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Seigneur, ta parole est pour nous expression de la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, pour introduire notre méditation, rien de tel que ce cantique 349 qui se trouve dans le petit recueil bleu « Louange et prière ». C'est un cantique qui n'est pas forcément très connu. Donc, nous allons laisser le soin à notre organiste Jean-Dominique Pasquet de jouer une première fois à blanc, en quelque sorte, la première strophe, après quoi nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, accompagnés par notre chœur qui, malheureusement, en raison de la neige, a été privé de sa tête. En savoir, Nicolas Barton-Page. Éternel notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, ces passages de l'Écriture que nous avons écoutés deviennent une parole qui nous aide à mieux comprendre notre vie et à mieux te comprendre. Chers frères et sœurs, le décor est donc planté pour que nous nous posions cette question. Quelle est donc notre patrie ? À quelle patrie appartient Arnold ? Quelle est notre patrie ? Eh bien, il n'est qu'à regarder notre communauté ce matin pour constater que notre communauté est largement transnationale. Nous sommes français, nous sommes anglais, nous sommes suisses, malgaches, nous sommes vietnamiens, nous sommes coréens, nous sommes roumains et nos origines sont germaniques, américaines, ivoiriennes, algériennes, italiennes, j'en passe et des meilleurs. Nous ne pouvons que convenir du fait que notre communauté dépasse largement les frontières nationales. Et ce qui est vrai pour nous est vrai aussi pour les autres communautés chrétiennes. À vrai dire, nous sommes toutes et tous de véritables étrangers en ce lieu. Et comme on me le rappelait encore cette semaine, c'est là le véritable sens de paroissien, puisque para oikos, c'est être de la maison d'à côté. Être là en voisin, finalement. Et pourtant, nous nous sentons ici, chez nous. Et quand on vient de l'église réformée de Neuchâtel, on ne se sent pas si dépaysé que cela, en venant au culte, à l'oratoire, et réciproquement. C'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes de ceux qui se reconnaissent dans les mots de Kennedy en 1963, Ich bin ein Berliner. C'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes de ceux qui se reconnaissent également dans les mots de Jean-Marie Colombani dans son éditorial du 13 septembre 2001. Nous sommes tous américains. Et nous pourrions allonger cette liste d'affiliations qui sont autant de patries dont nous nous sentons légitimement citoyens, même si nous n'avons pas le passeport en bonne et due forme. À cela s'ajoutent bien évidemment d'autres patries. Il y a la Legio Patria Nostra, la patrie des légionnaires. On pourrait évoquer la patrie intérieure évoquée par Saint-Exupéry dans sa lettre aux otages. Nous avons bien d'autres patries encore qui tissent des fraternités d'ordre symbolique. Et puis, il y a cette vision d'Ésaïe. Un pèlerinage universel vers la colline de Sion où s'élève la maison de l'Éternel, père d'une multitude, père et donc patrie de tous les habitants de la terre, que l'Épître aux Hébreux évoque aussi en termes de cité, une cité préparée par Dieu. Eh bien, c'est cette cité que je vous propose d'explorer ce matin. Notre observation nous permettra tout d'abord de repousser trois caractéristiques qu'elle ne possède pas, cette cité, en dépit des idées reçues, après quoi nous essaierons d'en dire l'essence et de dire un peu quelle est cette patrie à laquelle nous disons qu'Arnold appartient, notamment. Tout d'abord, la vision d'Ésaïe pourrait nous faire penser qu'il y a au-dessus de toutes les patries une patrie qui surplombe l'ensemble, une patrie divine qui fusionne l'ensemble des peuples et des nations en une seule entité, en une seule patrie qui se substitue à toutes les autres. Et parce que cette patrie, nous entendons qu'elle recèle en son cœur la colline de Sion, où se trouve le temple de l'Éternel, eh bien nous pourrions être tentés de voir en l'Église, évidemment, le lieu où l'ensemble de l'humanité devient un peuple unique. Mais l'Église, même avec un E majuscule, même dans une vision large, c'est-à-dire le christianisme dans son ensemble, n'est pas le tout de Dieu. Le christianisme serait bien prétentieux de vouloir s'identifier intégralement à la patrie de Dieu. Certes, il est arrivé par le passé qu'il soit dit que l'Église était l'épouse du Christ, Christ étant Dieu qui se manifeste parmi les hommes. Mais nous ne pouvons pas lire dans cette vision d'Ésaïe une description de l'Église célébrant ses noces avec le Christ, sauf à concevoir un Christ polygame. L'Église participe en bonne compagnie à ce cortège universel, au même titre qu'Israël, au même titre que d'autres communautés humaines, religieuses ou non. Les nations et les peuples convoqués par le prophète forment l'ensemble de l'humanité. Ils ne sont pas unifiés sous une bannière unique, ils ne sont pas accueillis par un hôte unique qui serait l'Église, rassemblant en son sein les populations autrefois dispersées sous diverses dénominations. Pas plus que l'Éternel n'a espéré qu'Israël s'étende sur toute la surface du globe, l'Éternel n'espère nullement que l'Église soit la seule et unique patrie du monde. La cité de Dieu pourrait être qualifiée d'Église, mais à la condition qu'il soit question de l'Église invisible, que Dieu seul connaît, et qui dépasse largement les frontières institutionnelles, ce que nous en disons et pensons. Donc, premier aspect, la cité de Dieu n'est pas réduite à l'Église visible. Deuxième aspect qu'il nous faut peut-être rejeter, c'est cette idée selon laquelle la cité de Dieu arrive toute seule. Cela a souvent été déduit de la vision finale du livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, la vision d'une cité nouvelle qui descend du ciel et qui pourrait laisser entendre que cette patrie divine dépend de Dieu et de Dieu seulement, et qu'elle arrivera quand elle arrivera et que nous n'y pouvons rien. Ce serait oublier un peu vite que cette vision de l'Apocalypse intervient après de nombreux chapitres de batailles assez terribles et enflammées contre tout ce qui opprime l'humanité. La cité de Dieu au chapitre 21 de l'Apocalypse n'arrive pas comme cela, subitement, sans avoir été préparée sur terre. Comment imaginer d'ailleurs qu'Ésaïe, le prophète, ait eu une vision un peu naïve d'une paix universelle décrétée par Dieu, une paix qui s'impose d'elle-même, une paix qui rassemble tout le monde comme par enchantement dans une même patrie. Si cela était effectivement possible, cela ferait bien longtemps que nous en bénéficierions. L'Épître aux Hébreux parle d'une cité que Dieu prépare. Alors on nous dira, voilà, il faut du temps pour que Dieu prépare cette cité. Mais pense-t-on vraiment que la préparation prend du temps dans l'atelier divin et que la cité arrivera une fois que Dieu l'aura achevée, parce que pour l'instant il n'y arrive pas encore, et qu'il pourra enfin la présenter au monde? En réalité, c'est plutôt l'inverse que le prophète Ésaïe nous révèle. C'est la décision des êtres humains de se rendre à Jérusalem et d'y trouver là ce qui forgera la paix entre tous, qui fait advenir la paix. Ce n'est pas la décision de Dieu qui fait advenir la paix. C'est la décision des hommes qui rend inutiles les armes qui pourront alors être transformées en outils agricoles. La cité de Dieu ne vient pas toute seule selon le bon désir de Dieu, elle est le résultat de l'action concertée des hommes. Troisième aspect, enfin, qui ne caractérise pas la cité de Dieu en dépit des idées reçues, l'idée selon laquelle cette cité serait au ciel, pour de vrai. Certes, la description de Jérusalem située sur la montagne de Dieu elle-même au-dessus des montagnes et des collines fait penser à une Jérusalem dans les cieux et finalement à une Jérusalem assez inaccessible, sinon dans nos rêves. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit pourtant que les grandes figures bibliques l'ont vue, cette cité, et qu'ils l'ont saluée de loin. Elle n'est donc ni une cité matérielle, puisque Abraham, l'un d'eux, était justement sur le futur emplacement du temple lorsqu'il a failli sacrifier son fils. Donc il n'aurait pas eu besoin de la saluer de loin puisqu'il était sur place. Et donc pas une cité matérielle dont il est question. Ce n'est pas non plus une cité vaporeuse, située dans quelque espace, sans quoi, depuis le temps qu'on explore l'univers en tous sens, avec des moyens techniques autrement plus performants que les yeux des patriarches de l'époque, nous l'aurions fixé sur des images qui actuellement circuleraient abondamment sur Internet. Elle n'est donc pas dans les cieux, dans un sens qui serait une forme d'au-delà de la vie biologique, sans quoi les patriarches n'auraient pas pu la saluer de leur vivant. Bref, cette image d'une patrie céleste, élevée au-dessus de tout ce que nous connaissons, ne désigne donc pas un lieu ou un temps. Elle n'est pas plus au ciel que l'éternel, sinon comme l'image d'une patrie qui nous élève au-dessus de nos contingences matérielles. Une patrie qui ne reste pas confinée à nos capacités tellement limitées que nous les matérialisons par des frontières de toutes sortes. Trois aspects qui ne me semblent pas donc correspondre à ce que ces deux textes bibliques nous proposent. Maintenant que nous avons nettoyé notre regard de ces clichés qui nous éloignent du message biblique, nous pouvons observer ce qui constitue cette patrie. Quelle en est sa constitution? Tout d'abord, c'est une patrie qui préserve les particularismes, qui maintient les identités en termes de peuple et de nation. Les patries à caractère politique, les patries symboliques auxquelles nous adhérons, subsistent. Elles ne sont pas soudainement effacées, annulées par une patrie supérieure qui se substituerait à elles. Il n'y a pas de globalisation au sens d'une entité qui engloberait tout. Sur le plan religieux, il n'y a pas de projet d'une religion unique comme il n'y a pas sur le plan politique de perspective d'un État unique. Il y a en revanche ce que nous pourrions appeler une communauté de destin. Une communauté de destin qui transcende les appétits individuels. Et nous avons chez Ésaïe une sorte de manifeste en faveur d'un rapprochement des peuples qui pourront se fédérer autour de choix communs qui deviendront alors des universaux. Cette communauté de destin s'exprime sous la plume d'Ésaïe par cette topographie un peu particulière de Jérusalem, qui n'a rien de commun avec la topographie de la ville que nous connaissons de l'autre côté de la Méditerranée. Dire que la maison de l'Éternel est au sommet des montagnes, à la tête des montagnes, dans la langue hébraïque, c'est dire qu'elle est à la tête des montagnes, mais la tête, c'est aussi le fondement, c'est le principe fondateur. C'est ce qui, en grec, donne le arché, certes le commencement, mais aussi le principe fondateur. C'est le fondement autour duquel tout s'organise. Et dire que la maison de l'Éternel est le fondement des montagnes, où se déroulent habituellement les révélations, et qu'elle est élevée au-dessus des collines, où les hommes bibliques organisent habituellement leurs célébrations, c'est affirmer que cette patrie est le lieu où les aspects fondamentaux de la vie sont révélés, reconnus par tous et mis en application. C'est le lieu où les universaux sont mis en évidence. Alors, les universaux. Quand on demande à Umberto Eco, toujours un peu facétieux, de s'interroger sur les universaux, on pourrait s'attendre à ce qu'il évoque la liberté, la démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, la justice, peut-être même la laïcité. Mais quand Umberto répond, il dit que ce qu'il y a d'universel, c'est le fait de manger et de boire. J'ajouterais de dormir. La réponse d'Umberto Eco est loin d'être sotte, à vrai dire. Quand ces besoins fondamentaux, manger, boire, dormir, sont reconnus et pris en charge, eh bien tout le reste en découle. Quand tout le monde peut manger à sa faim, alors c'est qu'il n'y a plus les hommes qui prennent la part des femmes qui doivent manger après. Il n'y a plus les populations qui se serviraient avant d'autres populations plus pauvres qui ne recueilleraient que les miettes. Quand on peut boire sans s'empoisonner, c'est qu'on a démocratisé l'accès à l'eau. Quand on peut dormir sans mourir de froid ou de chaud, c'est qu'on a aussi cessé d'exploiter des hommes que l'on fait mourir à la tâche. Autrement dit, la patrie de Dieu s'édifie chaque fois que nous tous, d'un point de vue universel, nous nous rapprochons par exemple des objectifs du millénaire pour le développement établis par l'Organisation des Nations Unies, qui sont une transcription des besoins fondamentaux de chaque être humain. L'hygiène, l'éducation, la protection de la maternité. Bref, autant d'éléments fondamentaux qui, une fois qu'ils sont pris en charge, un peu comme sur la base de la pyramide de Maslow, permettent aux autres étages d'être traités. Dans la perspective d'Ésaïe, le fait qu'il y ait une convergence vers la Torah qui sort de cette Jérusalem mythique, c'est une façon pour lui de dire que les peuples manifeste le désir de s'ouvrir à de nouveaux dialogues pour doter le monde d'institutions qui seront capables de satisfaire ses besoins fondamentaux, de satisfaire l'intérêt général aussi, en préservant, comme je vous le disais, les singularités et les différences. Parce qu'évidemment, quand on dit la Torah, on pense tout de suite aux 5 premiers livres de la Bible. On pense à un arsenal de prescriptions religieuses, peut-être aux 613 commandements, aux 613 mitzvot de la tradition juive. Mais la Torah est bien plus que cela. La Torah déborde largement le Pentateuque. La Torah de l'Éternel dépasse largement les textes bibliques. Elle dépasse largement le Talmud, elle dépasse largement ce que nous en disons. Si nous revenons à l'essence même de la Torah, au verbe fondateur de la Torah, le verbe yara, c'est un verbe qui signifie instruire. C'est un verbe qui signifie donner une structure interne, donner une colonne vertébrale. Cela signifie que se rendre à Jérusalem, symboliquement le lieu d'où sort cette colonne vertébrale, qui nous permet de nous tenir debout et d'avancer, eh bien, c'est s'orienter vers une société qui structure notre humanité, qui l'a construit en la dotant d'une structure commune, adoptée par tous dans le dialogue, dans le « allons et montons vers la maison de l'Éternel ». Allons, faisons un bout de chemin ensemble et adoptons des institutions communes. C'est aussi l'esprit de ce bon mot du pasteur Martin Luther King. Si nous ne vivons pas ensemble comme des frères, alors nous mourrons ensemble comme des idiots. Voilà donc une démarche proposée par le prophète Ésaïe. Une démarche qui propose une nouvelle citoyenneté. Une citoyenneté qui reconnaît à l'homme la capacité de faire des choix concertés. Des choix qui transcendent les classes, qui transcendent les religions, les nationalismes, les cultures et même les peurs de l'avenir. C'est un peu comme si Ésaïe ouvrait une nouvelle voie à un nouvel humanisme, un humanisme où l'homme agit au nom de ce qui le dépasse et sans se tenir à ses intérêts personnels. C'est ce que Augustin dit justement dans cet ouvrage décisif, La Cité de Dieu. Il dit qu'il s'agit d'ouvrir le chemin où l'amour de Dieu prime sur l'amour de soi. Un chemin où nous sommes animés par le bien commun, par cette Torah qui appelle à la fois à la liberté et à la solidarité, en hissant par-dessus tout la prise en compte des besoins fondamentaux de tous. La tête de la montagne sont ces fondements qu'il nous faut rejoindre, et la Torah, c'est cette colonne vertébrale qui nous permet de nous tenir ensemble sur ces fondements. Alors, bien évidemment, il s'agit là d'une utopie au sens strict du terme. Et c'est d'ailleurs ainsi que commence cette vision d'Ésaïe en disant « c'est une utopie », avec l'expression hébraïque « dans les jours d'après », ce qui en grec, dans la Septante, la traduction grecque de la Bible, a été rendu par les jours eschatologiques. Les jours eschatologiques, ce sont les jours de la fin. Ce n'est pas pour dire que c'est là une réalité renvoyée aux calendes grecques, que ça sera bon pour nos successeurs, nos arrière-petits-enfants. Il s'agit de dire qu'il y a là pour nous une visée, un point focal. Non pas quelque chose qui ne dépend pas de nous et que nous renvoyons aux autres générations, mais un horizon que nous fixons et vers lequel nous nous rendons dès à présent. C'est une visée en direction de l'ultime. Et cet ultime, c'est le choix que nous faisons de manière concertée. C'est le choix d'un horizon universel, d'un horizon commun, d'une perspective universelle vers laquelle tous tendent, chacun selon ce chemin, chacun à son rythme, avec ses références culturelles. C'est le choix universel de s'exposer au divin, pour penser le monde non plus selon ses propres schémas seulement, non plus en n'ayant en vue que la patrie dont nous sommes issus, ce qui n'était déjà pas le cas des Abraham et consorts, mais en tenant compte aussi des aspirations voisines qui s'expriment dans cette Jérusalem d'Ésaïe. Alors avec les Abel, avec les Enoch, avec les Noé, les Abraham, Sarah, les Isaac, les Jacob, eh bien, nous n'aurons de cesse, nous aussi, de battre le fer et d'enfourcher nos chariots de feu, pour reprendre les termes de William Blake, et de nous reposer tant que ne sera bâtie cette Jérusalem. Amen.